proposé par Irène Chaland et Jean Leclerc.
Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores.
Cette semaine, révolution et coup d'État. De Santiago à Berne, en passant par Milan, retour sur les réfugiés.
Dans le stade national, c'est là que sont enfermés pêle-mêle les suspects et les détenus politiques.
Déjà maintenant, nous pouvons confirmer qu'un très grand nombre de réfugiés chiliens peuvent être accueillis en Suisse.
De très nombreux citoyens sont venus à l'aéroport de Cointrin aujourd'hui.
Ce problème des réfugiés chiliens, de leur accueil en Suisse, a été mentionné par beaucoup des auditeurs qui nous ont écrit.
Il va de soi que tout le monde qui ne tient pas compte de notre légalité sera puni.
La barque de ceux qui se portent bien mange, dont les enfants vont à l'école. La barque de ceux-là n'est jamais pleine.
11 septembre 1973, le Chili, un des rares États démocratiques d'Amérique du Sud, est le théâtre d'un coup d'État militaire contre le gouvernement du président démocratiquement élu Salvador Allende. Des milliers de Chiliens sont arrêtés, torturés et assassinés. C'est le début de l'ère Pinochet, de sa répression, des disparus et des réfugiés politiques. Dans un climat de guerre froide, la Suisse officielle voit plutôt d'un bon œil la chute du socialiste Allende. Soucieux de ne pas accueillir des extrémistes de gauche et de peur de donner des arguments à l'initiative Schwarzenbach contre la surpopulation étrangère, le conseiller fédéral Kurt Furgler opte pour accueillir rapidement 200 réfugiés en provenance du Chili. En réponse aux réticences des autorités suisses à accueillir un plus grand nombre de Chiliens, un mouvement d'aide aux réfugiés voit le jour, Action Place Gratuite. Il s'agit d'un appel aux citoyens suisses pour qu'ils se déclarent prêts à accueillir des Chiliens chez eux. Les réponses se comptent par milliers et s'accompagnent d'un soutien des syndicats, des mouvements de gauche, des églises, mais également de nombreuses communes et du gouvernement tessinois. Face au refus du Conseil fédéral, le mouvement cherche à faire venir par ses propres moyens des réfugiés chiliens. Revenir sur ces événements avec un angle particulier, celui de l'exil des réfugiés chiliens vers la Suisse et de la mobilisation en faveur de leur accueil, paraît aujourd'hui tout à fait d'actualité. Quel périple pour les réfugiés chiliens depuis les lendemains du coup d'État à leur arrivée en Suisse? Quel bras de fer entre Action Place Gratuite et le Conseil fédéral? Voici résumé le prochain documentaire d'Histoire vivante, La barque n'est pas pleine.
Est-ce qu'on vous a dit que vous ne pourriez pas faire d'activité politique?
Ils ont dit que non pouvait faire d'activité politique en Suisse.
Si.
Oui.
Ça ne vous gêne pas?
Non les moleste?
Non, absolument. Vous êtes prêt à renoncer?
Mientras tanto que en Suisse, si.
Pendant que je suis en Suisse, oui.
Sous la pression du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies et d'une partie de l'opinion publique choquée par le coup d'État, le Conseil fédéral décide le 23 octobre 1973 d'accueillir un quota de 258 réfugiés en provenance du Chili.
Les conseillers fédéraux disent toujours que la barque n'est pas pleine, virgule, mais pour dire ensuite qu'elle est quand même pleine. C'est la rhétorique qu'on nous sert depuis 40 ans. Furgler a entretenu un malentendu de façon consciente. Il ne s'agissait pas de 200 Chiliens, mais de 200 réfugiés qui avaient obtenu l'asile au Chili et qui, grâce au Haut Commissariat, allaient trouver asile dans un pays tiers. Il a donc dit sciemment, on a déjà accepté 200 réfugiés chiliens, on a fait ce qu'on a pu.
Un extrait de « La barque n'est pas pleine », le nouveau documentaire d'Histoire vivante à découvrir dimanche prochain sur RTS2. Quant à nous, cette semaine, retour sur un colloque enregistré en 2013 à l'occasion des 40 ans du coup d'État au Chili. Chili, 11 septembre 1973, le coup d'État 40 ans plus tard, action, mémoire et représentation collective. Une journée d'études organisée par le domaine d'histoire contemporaine de l'Université de Fribourg avec de larges extraits des intervenants. Et comme chaque lundi, nous commençons par nos deux entretiens. Tout d'abord, Maurizio Rossi, il est au micro de Pierre Azan.
l'attitude restrictive du gouvernement suisse à l'égard des réfugiés juifs durant la Deuxième Guerre mondiale est très bien documentée. Elle est résumée par la célèbre et triste formule de Rotmund, qui était le chef de la division de la police d'alors, qui disait « la barque est pleine ». Ce dont nous allons parler aujourd'hui est très différent, c'est « la barque n'est pas pleine » avec Maurizio Rossi. Bonjour Maurizio Rossi.
Bonjour.
Alors pourquoi la barque n'est pas pleine? Nous allons parler effectivement d'une autre histoire, de l'histoire des réfugiés du Chili, et on va voir comment la société suisse s'est mobilisée effectivement pour venir en aide. Dites-nous alors d'abord comment cette mobilisation s'est produite. Rappelons les circonstances de l'époque. Il y a d'abord évidemment le coup d'État de Pinochet, le 11 septembre, un autre 11 septembre 1973. Il y a la répression très féroce. Il y a aussi le gouvernement suisse qui au début ne veut pas tellement donner l'asile. Et puis il y a cet extraordinaire mouvement de solidarité qui commence à se créer et dont vous parlez dans votre livre qui vient d'être republié pour la troisième édition, Solidarité d'en bas et raison d'État.
Je pense que cette solidarité s'est mise en place progressivement au fur et à mesure que la société civile observait que l'action du gouvernement suisse ne correspondait pas, en tout cas une partie de la société civile suisse observait que l'action du gouvernement suisse ne correspondait pas à ses désirs. Le coup d'État au Chili a représenté un choc très important sur toute la planète, je dirais, mais en Suisse aussi. Le Chili avait réputation d'être un pays relativement stable dans le contexte latino-américain. Le gouvernement de Salvador Allende n'avait pas dérogé à cette tradition démocratique, plus ou moins mythique peut-être, mais du Chili. Et le fait que cette expérience, dans un contexte aussi d'ébullition idéologique en Europe, cette expérience d'Allende qui essaie de mettre en place un projet de révolution tout en respectant le cadre démocratique, la répression de cette expérience par les militaires suscite une émotion très grande partout.
Et donc, vous-même, en fait, comment vous en avez entendu parler? Parce que j'ai vu sur la quatrième de couverture de votre livre que vous êtes né en 1978. Donc, vous êtes né 5 ans après le coup d'État de Pinochet. Et qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à cette histoire?
Mais je me suis toujours intéressé un peu à l'Amérique latine, mais c'est vrai que l'expérience d'Allende est du début à la fin, c'est-à-dire l'expérience, comment elle s'est mise en place et puis comment elle est terminée, ça m'a toujours interpellé. J'ai eu la chance d'arriver un peu au bon moment, au moment où les sources disponibles dans les archives fédérales, qui sont normalement soumises à un délai de protection de 30 ans, ont été accessibles à la recherche historique. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance, en fait, pour la première fois, de pouvoir regarder ces documents extrêmement intéressants.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé?
J'ai trouvé une histoire dont j'ignorais une grande partie, en fait, une histoire qui m'a fasciné. Une histoire où on mêle, comme le dit le titre de l'ouvrage d'ailleurs, cette solidarité d'en bas, c'est-à-dire une force de la part de la société civile qui se heurte à l'attitude des autorités fédérales pour qui l'essentiel, c'était de défendre la raison d'État, en quelque sorte. On a une confrontation qui se met en place.
Moi, ce qui me frappe en lisant votre livre, c'est d'abord l'attitude de l'ambassadeur suisse, Charles Massé, à Santiago du Chili. Lorsqu'il apprend le coup d'État du Chili, qu'est-ce qu'il fait? Il sable le champagne. C'est quand même étonnant, non?
Tout à fait. Charles Massé a une attitude de sympathie vis-à-vis de la junte. C'est quelqu'un qui, aussi dans ses rapports qu'il écrit à Berne, ne cache pas sa satisfaction, au fond, pour ce qui arrive, pour le fait que le militaire ait pris le pouvoir. D'ailleurs, dans ses rapports, on constate une absence presque totale de tout ce qui est le volet répressif qui est mis en place par les militaires. Je vous rappelle, c'est un coup d'État qui a quand même fait plus de 3000, qui a assassiné plus de 3000 personnes. Très vite après le coup d'État, on a commencé à trouver des cadavres, on a eu des disparitions. L'ambassadeur ne faisait pas du tout état de ces faits-là. Il se limitait le plus souvent à rapporter à Berne la version qui était pratiquement identique, une version qui était identique à celle qui était proposée par les militaires dans leur propagande. Ce qui était tout à fait frappant, effectivement.
Mais j'ai envie de vous demander, à la tête du département suisse des affaires étrangères, nous avons un socialiste, nous avons Graber. Et en même temps, semble-t-il, il laisse faire largement cet ambassadeur qui prend parti pour un putschiste et qui reste aveugle face à une répression féroce qui fait des centaines, voire des milliers de morts. Comment est-ce possible ?
On constate effectivement qu'il y a une grande passivité de la part du département des affaires étrangères, qui s'appelait alors département politique fédéral. Je pense que le rôle de l'ambassadeur était principalement celui de transmettre de l'information à Berne, dans les circonstances qui ont suivi immédiatement le coup d'État. De la part de Berne, les informations n'arrivaient pas forcément toujours au chef du département. Je n'ai pas de source pour, étudier avec plus de précision le rôle du conseiller fédéral Graber, en l'occurrence. On voit en tout cas que pendant deux bonnes semaines après le coup d'État, l'ambassadeur refuse d'accueillir à l'ambassade non seulement des Chiliens ou des Latino-Américains persécutés, mais aussi des Suisses qui demandent refuge à l'ambassade. Et on voit que Berne était informé de cela. L'ambassadeur prétextait des raisons d'ordre public, des dangers de cambriolage, etc., pour justifier la fermeture de l'ambassade. Berne était au courant de cela. En tout cas, les hauts fonctionnaires à Berne. On ne sait pas si le conseiller fédéral était au courant ou pas. On voit que c'est seulement après deux semaines que le conseiller fédéral a probablement pris position d'une façon un peu plus ferme en disant à l'ambassadeur, écoutez, ces excuses-là ne sont pas valables pour garder les portes de l'ambassade fermées. Il faut au moins que vous accueilliez des Suisses qui en feraient la demande.
Sait-on s'il y a des Chiliens ou d'autres qui ont perdu la vie parce que les portes de l'ambassade sont restées totalement closes ?
J'ai trouvé trace d'à peu près 20 demandes, de documents où l'ambassadeur fait état d'une vingtaine de personnes qui auraient demandé l'entrée à laquelle il aurait refusé. On ne peut pas dire s'il s'agit de 20 personnes ou s'il s'agit de personnes qui sont revenues plusieurs fois. Voilà, on ne peut pas faire d'accusation précise en quelque sorte. Mais c'est sûr que l'ambassadeur s'est très vite fait connaître aussi dans l'opinion publique internationale pour son attitude extrêmement pro-militaire, ce qui fait que beaucoup de réfugiés potentiellement aussi intéressés par à frapper à sa porte aient renoncé de peur que, vu ses liens très étroits et sa sympathie pour les militaires, finalement ils ne soient dénoncés par l'ambassadeur.
Maurizio Rossi, au micro de Pierre Azan.
Évidemment, ce qui frappe, c'est de mettre en ce moment-là le contraste entre l'accueil formidablement généreux du Conseil fédéral à l'égard des Hongrois qui fuient l'invasion communiste de 1956, puis 10 ans plus tard, la même chose avec les Tchèques, puisque les autorités suisses vont accueillir plus de 10 000 ou de 12 000 réfugiés de Hongrie, puis de Tchécoslovaquie, et cette extraordinaire fermeture des frontières à l'égard des réfugiés chiliens qui, eux, fuient, en fait, une dictature militaire, mais de droite.
Tout à fait. Il y a un contexte qui change, effectivement, avec cet épisode des réfugiés chiliens. Il y avait plusieurs raisons qui expliquaient cette ouverture extraordinaire qu'a eu la Suisse vis-à-vis des réfugiés hongrois et des réfugiés tchèques. Pas seulement des raisons d'affinité idéologique, mais aussi un peu tout le débat qui commençait à naître suite à l'attitude, enfin commençait à s'interroger un peu sur l'attitude de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1957, il y a eu le premier rapport Bonjour sur l'attitude de la Suisse vis-à-vis des réfugiés. Donc c'est une époque où la Suisse s'interroge. Et exactement à cette époque, il y a des réfugiés qui frappent à la porte de la Suisse et c'est des réfugiés finalement qui ont un peu les mêmes idéaux qui sont supposés être facilement intégrables en Suisse. La Suisse, dans ce climat de guerre froide, tient bien à montrer son appartenance à l'Ouest finalement.
Il y a un autre facteur peut-être politique qui joue dans le même sens. Il y a aussi l'initiative Schwarzenbach de l'époque.
Ça, c'est une des choses, effectivement, qui font que le contexte avec l'accueil des réfugiés chiliens change radicalement. La troisième initiative contre la surpopulation étrangère, c'est une espèce d'épée de Damoclès qui est dans l'air au cours de toute cette histoire, en tout cas jusqu'à décembre 1974. Le Conseil fédéral a très peur que cette votation aboutisse. La Suisse est dans une phase, encore jusqu'à cette époque-là, précisément avant le choc pétrolier, dans une phase d'expansion économique incroyable. On a besoin de cette main-d'œuvre. L'économie suisse a besoin de cette main-d'œuvre. Donc le Conseil fédéral a vraiment très très peur que cette initiative puisse passer et fait tout pour le défendre. Quelque part, on peut dire que les Chiliens ont quelque part été sacrifiés sur l'autel de cette lutte contre l'initiative contre la surpopulation étrangère.
Alors évidemment, ce qui est totalement fascinant en lisant votre livre et aussi le film qui sera diffusé dimanche soir de Daniel Viss, La barque n'est pas pleine, c'est de voir cette mobilisation de l'opinion publique suisse et qui va effectivement presque transgresser les limites de la légalité.
Tout à fait. Face à cette attitude de fermeture de la part du Conseil fédéral, donc qui commence avec cette attitude pour le moins ambiguë au début avec les réfugiés, qui surtout se manifeste lorsque des mouvements dans la société civile déclarent leur intention d'accueillir des réfugiés en Suisse, cette fameuse action place gratuite, ils mettent à disposition des places gratuites pour les réfugiés. Ils disent il y a un appel qui est lancé, il y a 3000 places gratuites qui sont récoltées en très peu de temps.
Comment ça se passe pratiquement, que je comprenne?
C'est une initiative qui naît de quelques personnes, en fait, très idéalistes, qui décident, en fait, sur un peu l'exemple de ce qui a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale par un pasteur qui avait proposé à la population d'accueillir des réfugiés chez soi. Sur le modèle de cette initiative qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont lancé un appel à la population pour accueillir des réfugiés chez soi. Concrètement, il y a des articles dans les journaux qui sont sortis, il y a des annonces qui ont été publiées, il y a eu une grosse circulation d'informations de la part des églises, de la part de la gauche, de la part de l'opinion publique plus en général, afin de récolter ces places gratuites.
Pratiquement, les gens ont écrit à ce mouvement Place Gratuite pour dire « Nous pouvons loger un Chilien ou une Chilienne pendant 2 mois chez nous. » C'est cela? Ou des écoles ou des églises? C'est ce
exactement. Il y a eu des particuliers, il y a eu des églises, il y a eu aussi des communes, pas mal de communes. Il y a aussi le cas du canton du Tessin, à plusieurs niveaux de la société, pas uniquement de la société civile, mais aussi au niveau des communes, des paroisses, etc. On s'est vraiment manifesté d'une façon très concrète en disant la barque n'est pas pleine. Nous, on peut accueillir des gens, on peut les accueillir chez nous, on peut leur offrir à manger, on peut leur offrir un travail. Donc, il n'y a pas de raison que le Conseil fédéral refuse de faire entrer davantage de Chiliens parce que la place, elle est là. Moi, je peux offrir une place. Lui, il peut offrir 2 places. Voilà, tant de places qu'on a trouvées, il y en a 3000.
3000 places? En combien de temps?
En très peu de semaines.
Mais ça, c'est totalement étonnant, cet élan de générosité.
Tout à fait. Je pense que ça s'explique par le contexte d'ébullition idéologique de l'époque, par cette attitude de fermeture du Conseil fédéral qui était incompréhensible pour une grande partie de la population. D'où cette volonté de s'opposer à cette politique. D'autant plus qu'à l'époque, le monopole, disons l'autorité du Conseil fédéral en matière d'asile n'était pas tout à fait assurée. Il n'y avait pas de loi de l'asile qui stipule ou qui attribue au Conseil fédéral l'exclusivité de cette politique. Ce qui fait que pour beaucoup de gens, aussi au niveau des communes, et aussi plus en général au niveau de la société civile, on pouvait très bien faire de la politique d'asile. On n'était pas obligé de demander l'autorisation du Conseil fédéral, quelque part.
Ça paraît totalement étonnant. Mais il faut parler maintenant, je crois, de 2 hommes qui vont s'entrechoquer de manière très, très vive. D'un côté, le conseiller fédéral Kurt Fugler, et de l'autre côté, l'abbé Koch. Alors, rappelez-nous qui sont ces 2 hommes.
D'abord, l'abbé Koch, c'était... Il y a une très belle définition de lui, c'est un prêtre freelance.
C'était quelqu'un... Un prêtre freelance?
Un prêtre freelance. C'est quelqu'un qui est devenu prêtre parce qu'à un moment donné, il a pensé que c'était la meilleure manière pour aider les autres. C'est quelqu'un qui... Et ça, c'est assez intéressant. Elle avait vécu pendant son enfance, sur sa peau, je dirais, l'expérience du réfugié. Il était issu d'une famille qui avait émigré en Roumanie au 19e siècle, qui avait fait une relative fortune, mais qui avait dû fuir après la Deuxième Guerre mondiale, suite à l'arrivée des Soviétiques, et qui avait dû retourner en Suisse. Et à ce moment-là, il avait 4-5 ans, Lui, c'est expérience du refuge dans des camps d'internement en Suisse. Ensuite, il se retrouve en Suisse, catapulté dans une société où sa famille, son père, il doit se recycler de chef d'entreprise à ouvrier. Ils vivent beaucoup de difficultés. Et puis, surtout, il se rend compte que grâce à son passeport suisse, il est encore privilégié par rapport à d'autres personnes, même dans cette situation de réfugié. C'est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, par la suite, a œuvré en faveur des réfugiés jusqu'à son décès en 2001. Donc voilà, prêtre freelance, je dirais, sans tout ce que peut représenter la
freelance aussi, parce qu'il n'a pas peur d'affronter les autorités et il n'a pas peur d'affronter un certain conseiller fédéral, Kurt Furgler.
Absolument, c'est un peu un électron libre. Effectivement, les procès-verbaux des réunions entre Koch et le conseiller fédéral sont assez amusants quelque part. Le conseiller fédéral, à un moment donné, demande à Koch, c'est qui le conseiller fédéral ici ? Tant l'attitude de Koch paraît, aux yeux du conseiller fédéral, irrespectueuse quelque part. Mais pour Koch, le gouvernement était au service de la population et en l'occurrence, il devait répondre à cette demande de la population d'accueillir davantage de Chiliens. Bah, malheureusement, enfin, on peut dire que c'est aussi ces deux caractères assez différents qui
revenons
qui ont
sur,
conduit.
Si vous voulez bien, revenons d'abord sur Kurt Furgler. Alors dites-nous, quelle était sa position à l'époque ?
Je ne peux pas vous dire. Disons que depuis le début, il a un peu eu une réaction de fermeture. Enfin, il a tout de suite ressenti que cette action en place gratuite entrait en confrontation avec lui ou qui, en quelque sorte, remettait en cause son autorité. Il a une réaction donc de fermeture.
En lisant votre livre, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi l'idée que ces réfugiés chiliens étaient potentiellement des subversifs, des marxistes, des communistes, et que c'est pour ça qu'on ne les voulait pas, non ?
Oui, ben, naturellement, c'était des réfugiés qui venaient d'un pays qui avait connu un gouvernement marxiste, hein, avec beaucoup de nuances, évidemment. Mais c'est clair que pour les autorités, il y avait cette peur qu'il n'y avait pas eu précédemment, naturellement, avec les réfugiés hongrois ou tchèques, où c'était plutôt la situation contraire. Maintenant, il est un peu problématique, cette notion d'extrémiste, elle est un peu problématique, parce qu'on parle de gens qui sont en fuite d'un régime dictatorial. Les militaires chiliens, on appelle extrémiste un peu tout le monde, hein, et ce n'est pas toujours très rationnel. Donc là, il y a aussi un problème d'information. Pour le Conseil fédéral, à mon avis. C'est-à-dire que les informations qui arrivent à Berne, c'est les informations qui arrivent de l'ambassadeur, dont on a vu quelles étaient les positions. Il y a aussi des informations qui arrivent, toujours en partie par le canal diplomatique, mais qui sont issues de la communauté suisse qui résidait au Chili et dans le reste de l'Amérique latine. Cette communauté qui avait le plus souvent une vision très négative du gouvernement d'Allende et par la suite une vision plutôt satisfaite de ce que les militaires avaient fait au Chili. Et dans ces témoignages-là, il y a aussi pas mal de témoignages d'entreprises suisses qui avaient fait état à plusieurs reprises à Berne pendant le gouvernement d'Allende de leurs craintes face aux volontés d'Allende de nationaliser certaines entreprises. Donc c'est dans ce contexte aussi d'information un peu problématique quand le Conseil fédéral a souvent la perception que ces réfugiés soient des extrémistes. Maintenant, il y a une autre explication très importante, et c'est encore une explication qui est liée à la votation contre la surpopulation étrangère. La notion d'extrémiste, ou la peur de l'extrémiste, c'est une peur qui est surtout soulevée par les mouvements qui ont promu cette initiative contre la surpopulation étrangère. Et on voit très bien que quand le gouvernement fédéral met en avant pas depuis le début, mais assez rapidement, les argumentaires où il précise bien qu'il va tout faire pour ne pas accueillir des extrémistes, etc. En réalité, il parle aux gens qui ont promu cette action, cette votation contre la surpopulation étrangère. Et c'est d'eux qu'il a peur, finalement.
Revenons, si vous voulez bien, maintenant à l'opération Place Gratuite. Il y a quelques 2000 Chiliens qui vont traverser la frontière et qui vont s'établir en Suisse, finalement, un peu à la barbe des autorités.
Oui, on est un peu, je crois qu'on n'est pas vraiment dans l'illégalité, on est un peu dans une zone grise, on est un peu en marge de la légalité. C'est vrai que du point de vue juridique, il n'y a pas de condamnation suite à cette action en place gratuite. Il y a une plainte qui a été déposée au Tessin contre un des protagonistes de cette action en place gratuite, Dario Rivoir, et une vingtaine de gens qui ont aidé le passage de la frontière et de réfugiés aussi. Mais cette plainte s'est soldée par un acquittement, parce que la loi sur le séjour des étrangers qui condamne le passage illégal de la frontière, sans avoir un visa, disons, cette même loi reconnaît que si la personne qui traverse la frontière de cette manière-là est menacée dans sa vie, alors elle n'est pas punissable, ni elle, ni les personnes qui l'ont aidée à traverser la frontière. Donc on est dans une zone grise. C'est ce qui va aussi, on peut pousser vers la création d'une loi sur l'asile qui va fixer tous ces aspects qui n'étaient pas très, très clairs. Mais on est plus dans la confrontation politique, je dirais, que dans l'illégalité.
Mais Maurizio Rossi, quand ces quelques 2000 personnes, les uns après les autres, vont franchir la frontière, ils vont devoir s'établir, ils vont devoir avoir des permis de travail, des permis de résidence. Mais comment cela est-il possible puisqu'on est dans cette zone grise ?
Si on parle de l'action place gratuite, d'après les chiffres qu'on a pu on peut voir, les personnes qui ont traversé la frontière de cette façon, à la limite de la légalité, étaient à peu près une centaine.
Ah, c'est tout ?
Oui, pour la période où il y avait vraiment une confrontation ouverte et où cette entrée s'est faite d'une façon clandestine, on peut parler d'une centaine de personnes. Par la suite, cette opération rentre dans une phase où il y a quand même une certaine négociation avec le conseiller fédéral. Cornelius Corre se retire un peu de la scène parce qu'il se rend compte en fait que sa personne est peut-être un peu nuisible en fait à la possibilité d'avoir des pourparlers avec le conseiller fédéral. C'est un autre homme d'église d'ailleurs, un pasteur réformé cette fois, qui prend le rôle de porte-parole de l'action place gratuite, donc Dario Rivoir. Et c'est avec lui que s'instaure une sorte de longue partie d'échec avec le conseiller fédéral Fourgler, à l'issue de laquelle il y a environ 400 réfugiés chiliens qui auront pu trouver un refuge en Suisse. Le chiffre de 2000 réfugiés chiliens, ça se rapporte à une période plus longue en fait. Dans la période qui va de 73 à 76, le nombre de Chiliens qui ont pu entrer grâce à l'action en place gratuite était de 400. Il y a aussi un certain nombre de Chiliens, environ 250 personnes, qui sont arrivées en Suisse par le biais du Conseil fédéral lui-même. Le Conseil fédéral a, 2 mois après le coup d'État, organisé, en répondant à un appel du Haut Commissariat des réfugiés, un accueil en Suisse de 250 réfugiés. C'est d'ailleurs parce que la société civile en Suisse considérait que ces 250 personnes, ce n'était pas un nombre suffisant au vu des possibilités de la Suisse, que c'est mis en place par la suite de l'action en place gratuite.
Si aujourd'hui on prend un peu de recul, Maurizio Rossi, finalement, quel est pour vous l'héritage de cette période et aussi de cette campagne de désobéissance civile?
Il ne reste pas grand-chose, mais je dirais que même la notion de réfugié, ce n'est plus du tout la même qu'il y avait à l'époque. On était en 73, le réfugié était encore vraiment associé à quelqu'un qui était en danger. On avait une image somme toute positive, très positive. Ce qui est assez frappant pour moi, qui suis né après, c'est de voir que l'image du réfugié qu'on a aujourd'hui, elle est assez différente, elle a une connotation qui n'est plus du tout la même. Et je pense que même pour des politiciens aujourd'hui, prendre publiquement la défense de la cause des réfugiés est peut-être un peu plus difficile que ça l'était à l'époque.
J'ai envie de vous demander, au terme de votre travail, finalement, quand vous voyez cette dynamique de solidarité, qu'est-ce que ça vous a inspiré, personnellement ?
Je trouvais intéressant de voir comment finalement un groupe auquel on n'aurait donné aucune chance au début de cette histoire, a finalement réussi à atteindre en partie, malgré beaucoup de difficultés, ce but humanitaire. Ce qui m'a aussi frappé, c'est à quel point ces personnes ont réussi à parler à l'ensemble de la société suisse. L'action place gratuite naît principalement dans des milieux de gauche, mais elle s'étend très rapidement à des cercles beaucoup plus larges de la population. Ça devient vraiment une opération à caractère humanitaire. Et c'est à ce titre qu'elle arrive à impliquer vraiment une grande partie de la population suisse. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez frappant. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était dans un contexte vraiment d'ébullition idéologique où les clivages, même à l'intérieur de la gauche, étaient extrêmement forts. Et cette action, avec un but, je dirais, apolitique, ou en tout cas très concret, humanitaire, a réussi à aller au-delà des clivages politiques. Et surtout, elle a réussi à sauver des vies humaines.
Maurizio Rossi était au micro de Pierre Hazan. Rappelons qu'il est l'auteur du livre « Solidarité d'en bas et raison d'État ». Dans un instant, une première séquence extraite de cette journée d'études organisée à l'Université de Fribourg, intitulée « Le coup d'État 40 ans plus tard », nous entendrons par la bouche de trois intervenants ce qui, précisément, reste aujourd'hui et les représentations collectives. Au cours de la journée d'études qui s'est tenue en 2013, s'est tenue une table ouverte autour de la question « L'héritage du 11 septembre 1973, un défi permanent dans un conflit sans issue ?» avec un point d'interrogation. On prit successivement la parole Ricardo Brodsky-Baudet, directeur du Musée de la mémoire et des droits de l'homme à Santiago du Chili, Olivier Compagnon, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Institut des hautes études en Amérique latine, et enfin Ivo Rogic, assistant diplômé à l'Université de Fribourg et organisateur de cette journée d'études, le coup d'État 40 ans plus tard, action, mémoire et représentation collective.
Je pense que le Chili d'aujourd'hui, c'est absolument différent, comme tous les pays par ailleurs, de l'année 73 à aujourd'hui, hein. Et c'est le monde est différent. Hein. C'était le monde de la guerre froide, c'était le monde dont la révolution des communications et tout ça à peine était en train de commencer. Hein. Et aujourd'hui, c'est un monde totalement différent, un monde globalisé, un monde dont le socialisme en tant que socialisme réel n'existe plus. Et les pays socialistes qui restent, la Chine, c'est une économie complètement capitaliste de libre marché. Hein. C'est un monde totalement différent. Le Chili aussi est vraiment très différent. C'était un pays beaucoup plus pauvre, hein, un pays avec un revenu par personne, par tête, et de, je sais pas, 6 000 euros et dollars. Aujourd'hui, c'est presque 20 000 dollars. Hein. C'est un pays qui est, on voit... plus qu'on voit de développement, hein, il appartient à la OCDE, c'est-à-dire il se situe un peu dans la partie plus basse des pays développés, on peut dire. Hein. La pauvreté au Chili aujourd'hui est d'à peu près de 10%, hein, et l'extrême pauvreté est pratiquement a disparu. Hein. Du point de vue social, économique, c'est un pays qui a connu un succès très important. Et ça a changé beaucoup, par exemple, les expectatives des gens. Hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a à peu près 1 million d'étudiants à l'université. C'est-à-dire que 80% des étudiants, c'est la première génération de Chiliens qui sont à l'université. Ce sont des fils des gens qui n'ont pas même fini l'éducation secondaire. Hein. Alors c'est un pays absolument différent. Culturellement et socialement, économiquement, etc. Mais il y a évidemment une histoire qui reste, hein, une mémoire qui reste, hein, et qui est toujours présente. Hein. Si vous pensez, par exemple, dans l'élection présidentielle aujourd'hui, il y a trois candidats qui sa biographie est intimement liée aux événements du 11 septembre 1973. Hein. Madame Bachelet, qui est la fille d'un général de la force aérienne qui a été torturé et assassiné en prison. Et Madame Evelyn Matei, qui est la fille d'un membre de la Junta de Gobierno. Et Marcos Enrique, qui est le fils de Miguel Enrique, le leader du MIR. Ce sont les candidats présidentiels aujourd'hui au Chili. C'est-à-dire, cette histoire de 40 ans reste très forte dans la politique chilienne, dans la vie culturelle et dans la vie intellectuelle chilienne. Mais le pays est très différent. Sur le modèle économique, je pense que Chili, il y a un consensus très étendu sur la nécessité de continuer dans une trajectoire de croissance économique pour finir avec les problèmes de la pauvreté et de l'extrême pauvreté, etc. Et la croissance, je crois que c'est un objectif partagé dans la société chilienne. Le problème, je crois, aujourd'hui au Chili, c'est qu'on n'a pas seulement une économie de marché, mais on a une société de marché. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire, l'éducation, la santé, la sécurité sociale a resté comme un sujet de marché et pas un sujet de droit qui sont garantissés par une action de l'État. Et ça, c'est la discussion entre... On peut dire la droite qui soutient un modèle néolibéral sans aucune modération, oui, et un modèle ultralibéral extrême, dont l'éducation est un produit du marché, dont la santé est un produit du marché, chacun veille par sa propre situation, dont la retraite est aussi un problème individuel. Et ça, c'est ce que le centre-gauche, on peut dire, la Concertation, la nouvelle majorité qui s'appelle aujourd'hui, a eu l'intention pendant les 20 ans de la Concertation et continue avec cette intention de changer. Et le processus pour ce changement, c'est un peu le conflit politique principal aujourd'hui au Chili. Personne ne veut revenir à une économie étatisée ou une économie centralisée ou une économie vers l'intérieur du pays. Tout le monde est d'accord, je crois, avec une économie ouverte, avec une économie globalisée, mais il y a des défis très grands parce que c'est une économie extrêmement dépendante des ressources naturelles, en particulier du cuivre, et donc il faut avoir une stratégie de développement industriel, par exemple, dont la droite n'est pas d'accord parce qu'il laisse ça aussi dans les mains du marché, il donne aucun rôle à l'État, à la politique. Et je crois que ça, c'est la différence qu'il y a au Chili et du point de vue du modèle. On va voir ce qui se passe.
Après Ricardo Brodsky-Baudet, directeur du Musée de la mémoire et des droits de l'homme à Santiago du Chili, deuxième intervenant à cette table ouverte autour de l'héritage du 11 septembre 1973, Olivier Compagnon, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.
Le problème du néolibéralisme, c'est que ça marche. Enfin, je me permets de commencer comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le modèle néolibéral s'est mis en place au moment de la grande crise des années 70, et effectivement, le Chili a retrouvé des taux de croissance assez rapidement à la fin des années 70 de 5-6%. Qui ont donc constitué cette idée qui a circulé ensuite internationalement d'un modèle économique chilien. Le modèle économique chilien n'a pas été exempt de graves crises, notamment au début des années 80, qui ont d'ailleurs contraint l'État, sous la dictature, à se réinvestir dans l'économie, ce qui n'était pas le moindre des paradoxes par rapport à l'orthodoxie néolibérale. Il n'empêche que ces crises ont été surmontées et que depuis la transition, donc depuis le tournant des années 80 et 90, personne n'a remis en cause... l'orthodoxie néolibérale. Personne ne l'a remise en cause et ça donne des résultats en termes de chiffres macroéconomiques qui sont de bons résultats. C'est-à-dire que le Chili a des taux de croissance depuis le début des années 2000 qui oscillent entre 6 et 10%, ce qui fait quand même pâlir d'envie n'importe quel pays européen. Et donc, vu du point de vue des institutions internationales, c'est un modèle qui fonctionne. Avec un modèle de croissance donc qui est complètement extraverti, hein, qui repose beaucoup sur l'insertion dans le commerce international et qui ne va pas s'en poser un certain nombre de problèmes, puisqu'on assiste à un phénomène alors, qui n'est pas propre au Chili, hein, c'est toute l'Amérique latine, ou la plupart des pays d'Amérique latine, qui est le phénomène de reprimarisation des économies. À partir des années 30, on avait essayé de développer des industries pour justement abandonner la vieille logique rentière. On exporte des matières premières non transformées et on importe des produits non transformés. Hein, logique rentière qui, à un moment donné, avait montré ses limites avec le krach de 1929 et l'effondrement des prix des matières premières. Toute la phase 1930-1970, en gros, c'est une phase de tentative d'industrialisation qui marche pas mal au Chili, d'ailleurs, en Argentine, au Mexique, au Brésil, pareil. Et la phase actuelle, c'est une phase de reprimarisation, notamment avec le cuivre, mais aussi un certain nombre de produits agricoles. Ce qui veut dire, en gros, une économie qui fonctionne bien, qui est complètement extravertie, mais qui est complètement dépendante des cours des matières premières agricoles ou minières. Ce qui veut dire concrètement que c'est une économie vulnérable, à la fois des cours internationaux, mais aussi de la demande. Pour l'instant, tout va bien, la demande en cuivre est très très forte. Donc d'un côté, ça marche. Et qu'aujourd'hui, il y a un consensus politique pour dire, voilà, on ne va pas renoncer à ces taux de croissance à 6, 8, 10%. On va d'autant moins y renoncer que ce sont ces taux de croissance qui ont permis la baisse sensible de la pauvreté. Ça, c'est pareil. C'est les chiffres qui le disent. Il faut le signaler. Je n'ai pas révisé mes chiffres de la pauvreté au Chili. Je connais bien ceux de l'Amérique latine en général. Hein. Il y avait 45% de pauvres en Amérique latine à la fin des années 1990. Il n'y en a plus que 27. Et au Chili, c'est un peu plus de 10% de pauvres, alors qu'il y en avait 40%. Donc cette croissance néolibérale, parce qu'elle crée de l'emploi, hein, alors attention, pas mal d'emplois précaires, hein, pas mal de flexibilité dans l'emploi, mais parce qu'elle crée de l'emploi, permet objectivement la baisse de la pauvreté et de l'extrême pauvreté. Donc si on s'arrête là, on dit, ben voilà, le modèle chilien nous montre que la solution idoine pour le développement au XXIe siècle, c'est le modèle néolibéral. Et il y a plein de gens qui s'arrêtent là dans l'analyse. La contrepartie de ça, et sur laquelle évidemment il faut fortement insister, c'est que le Chili est le pays le plus inégalitaire d'Amérique latine. Si vous prenez l'indicateur principal pour calculer l'inégale répartition des revenus dans une société, qui est l'indice de Gini, je vous épargnerai son mode de calcul parce que moi-même je ne suis pas sûr de l'avoir compris, c'est très très complexe, mais c'est un indicateur qui est considéré comme fiable par toutes les institutions internationales, et d'ailleurs je signale au passage que le pays du monde où la répartition des revenus est la plus parfaite est la Suisse, avec un indice de Gini de 25. Plus on est près de zéro, plus c'est parfait. Plus on est près de 100, moins c'est parfait. Et le Chili a un indice de Gini aujourd'hui de 55. Autrement dit, un indice de Gini supérieur à tous les pays africains, par exemple. Supérieur à celui d'Haïti. Supérieur à celui du Brésil. Et la grande particularité de l'indice de Gini au Chili, c'est qu'il ne cesse d'augmenter depuis quelques années. C'est-à-dire que les inégalités se creusent. Le dernier rapport de la CEPAL insiste beaucoup sur le fait qu'il y a de la croissance, indéniablement, il y a de la réduction de la pauvreté, mais il y a un creusement des inégalités. Alors, il y a cette donnée-là, et là on arrive à un versant qui est plus social, c'est qu'il y a ce creusement des inégalités avec, évidemment, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la question éducative, c'est-à-dire le retrait de l'État par rapport à l'enseignement secondaire et à l'enseignement universitaire. Ce qui fait qu'il y a creusement des inégalités et en plus diminution des possibilités de mobilité ou d'ascension sociale. Et le gros problème du Chili aujourd'hui, c'est que c'est une société plus que jamais de la reproduction sociale. Plus que jamais de la reproduction sociale. Et dans une certaine mesure, c'est aussi ça qui a en arrière-plan des mobilisations étudiantes, je crois. Au fond, on a ce contraste incroyable qu'on voit parfaitement quand on se balade dans Santiago. Beaucoup dans l'intérieur du pays. Vous allez dans un des quartiers de Santiago aujourd'hui, qui est surnommé Sanatán. Sanatán, subtile contraction entre Santiago et Manhattan. On est en train d'y construire des tours hallucinantes c'est le symbole de la très grande prospérité de l'économie chilienne. Et vous marchez un quart d'heure vers l'ouest et vous tombez dans des bidonvilles qui n'ont rien à envier aux infâmes bidonvilles de la banlieue de São Paulo. C'est ça, la réalité de la société chilienne. Et ça, c'est une évolution aussi des 40 dernières années. Alors, juste pour finir, on peut très largement considérer que la dictature a gagné, finalement. La dictature, d'une part, a réussi à créer un système institutionnel que 20 ans et plus de transition, maintenant presque 25, n'ont pas réussi à ébranler. Et puis surtout, oui, en termes de valeurs, on est entré dans une société résolument individualiste et consumériste, sans doute plus que dans la plupart des pays d'Amérique latine aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le reflet des valeurs qui ont été portées pendant 17 ans de dictature. Et ça, je crois que la principale mutation, elle est là. Alors maintenant, moi, je ne vais pas m'aventurer à de la prospective, parce que c'est pas, enfin, j'ai aucune compétence, et puis je doute beaucoup de ma capacité divinatoire. Mais moi, j'ai quand même de grands doutes sur la capacité de transformation qu'un nouveau gouvernement Bachelet aurait. Je crois que il y a un vrai consensus aujourd'hui et que il faudra sans doute attendre encore pas mal de temps avant que ou une crise sociale extrêmement forte avant que ce consensus soit ébranlé. C'est-à-dire que moi j'ai disons une vision relativement pessimiste en vérité de l'avenir du Chili.
Après ces remarques générales d'Olivier Compagnon de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, nouvel intervenant Ivo Rogic, assistant diplômé à l'Université de Fribourg et organisateur de cette journée d'études, le coup d'État au Chili 40 ans plus tard.
Mais si, il n'est pas facile pour moi d'intervenir après des interventions tellement complètes et pertinentes. Mais disons, je ne suis pas un spécialiste de l'actualité chilienne. Je connais l'actualité du Chili pour les 4 mois pendant lesquels j'ai vécu à Santiago et pendant lesquels j'ai eu une immersion humaine, je dirais, totale dans les milieux chiliens. Moi, j'ai remarqué, et puis il faudrait voir si j'ai raison, une constante, par exemple, où on ne trouve pas un énorme changement et où ni le coup d'État ni la dictature militaire ont peut-être eu un rôle fondamental, c'est-à-dire des phénomènes qui étaient déjà en place avant l'unité populaire. Donc, une certaine ségrégation sociale, malgré les grands pas en avant économiques. On a éliminé l'extrême richesse, on a baissé l'extrême pauvreté, excusez-moi. On a baissé le taux de pauvreté. Voilà, OK, les données macroéconomiques sont là. Mais quand vous habitez dans la zone de Bellavista à Santiago, et vous savez que ce secteur-là, il est divisé en 2 communes, d'un côté, vous avez la commune de Recoleta. De l'autre côté, vous avez la commune de Providencia. Et quand vous connaissez les premiers jeunes Chiliens qui ont votre âge, que vous retrouvez dans les bars où un Suisse peut se permettre d'aller boire des verres, et qui sont là aussi se payer des verres avec des salaires chiliens, les mêmes verres, donc de la classe moyenne, ils vont vous demander où vous habitez. Et vous allez dire Bellavista. Mais après, ils vont vous demander, mais dans quelle commune? Parce que Bellavista est divisé en 2 communes. Du coup, j'ai expliqué que je vivais dans la commune de Recoleta. Ben voilà, la réaction était directe. Il fallait déménager. Il fallait déménager d'au moins 3-4 quadras. Vous comprenez? Donc, et ça, ce n'est pas une chose qui m'est arrivée une fois. Ça serait une anecdote. C'est une chose qui m'est arrivée à répétition. Parce que c'est évident. Un jeune Suisse, à moins qu'il aille au Chili pour faire des études anthropologiques ou ethnologiques, voilà, il va probablement fréquenter des endroits où on peut boire des bons verres de vin chilien. Et parmi ces bars, et là je ferai une autre constatation que je trouve intéressante, vous trouvez par exemple des cliniques, qui est aussi un journal satirique, qui s'en prend depuis des années aux autorités, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, mais qui récupère aussi une certaine mémoire. Dans ce restaurant des cliniques, vous avez une salle qui n'est pas un hommage à Pinochet, mais où vous trouvez une image, une caricature de Pinochet pour se foutre de sa gueule, pour le dire avec des mots de bistrot dont je parle. Après, vous avez aussi des citations d'Allende. Mais là, oui, il y a aussi un peu de place pour le chiste, comme on dit en espagnol. Mais ça devient un peu plus sérieux, dans le sens qu'on revendique presque une identité anti-droite. Mais là, on se rend compte que c'est une récupération de la mémoire qui se monétarise aussi, parce que le restaurant, il a ses prix. Il est dans une zone d'employés d'État, de banquiers, etc., où la majorité des Européens vont y habiter pendant des séjours. Bellas Artes. De l'autre côté, vous avez des autres bistrots comme la Casa en el Aire, magnifique, avec des icônes de Victor Jara, avec des photos d'Allende, avec toutes les icônes de la, ce qu'on pourrait appeler la résistance à la dictature ou des victimes de la dictature, la martyrisation des personnages. Là aussi, ce n'est pas un endroit qui est accessible à tout le monde. Pas du tout.
Olivier Compagnon.
Puisqu'on parle en général de la société chilienne, je voulais ajouter deux choses qui ne sont pas directement liées, mais qui donnent aussi un aperçu de cette société. Il faut quand même souligner l'extrême conservatisme des valeurs qui demeure. En 2004, le Chili a été traversé par un débat ultra-violent, aussi bien au sein de sa classe politique qu'au sein de son opinion, qui visait quand même à instituer une loi sur le divorce. Le Chili était le dernier pays occidental avec Malte à ne pas avoir de loi sur le divorce. Ce qui veut dire quelque chose de très précis. Ça veut dire qu'une femme qui ne travaille pas et qui se fait tabasser ne peut pas quitter son mari, parce que sinon elle est à la rue. C'était ça l'enjeu de la loi, hein, fondamentalement, c'était ça. Et on a assisté à ce moment-là à des prises de bec absolument spectaculaires au sein de la classe politique sur l'opportunité de voter une loi sur le divorce, qui finalement a été votée, mais qui a été votée de manière ultra-minimaliste, et dont on ne peut pas dire qu'elle protège encore beaucoup aujourd'hui la condition des femmes. Le Chili demeure un pays très conservateur, comme le montrent, mais là c'est aussi le propre de quasiment toute l'Amérique latine, les résistances très fortes pour passer une loi sur l'avortement. Bon, je connecte ça avec une autre question que pour le coup je connais mieux, qui est la question du champ religieux. Et c'est pas sans lien avec la question précédente. Le Chili, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, mais avec un petit côté pionnier, hein, connaît une évolution aujourd'hui très importante, qui est l'érosion croissante du catholicisme. Hein, le catholicisme qui représentait 90-95% des Chiliens au sortir de la Seconde Guerre mondiale n'en représente plus aujourd'hui que 68-70%. Que se passe-t-il ? Est-ce que c'est un phénomène de sécularisation à l'européenne selon le schéma de Max Weber, etc. ? Pas du tout. Il y a effectivement une petite tendance à la sécularisation, mais il y a surtout un transfert d'affiliation religieuse vers les nouveaux mouvements évangéliques. Comme au Brésil, hein, ça a été les deux pays pionniers. Et ça, c'est aussi un phénomène qui est extrêmement intéressant, au moins à deux titres. D'abord parce que ces mouvements évangéliques, qui sont donc en pleine croissance, et c'est une croissance exponentielle. Dans 25 ans, si la croissance continue comme ça, les catholiques seront largement minoritaires au Chili. Et ça a au moins deux types de conséquences. C'est que d'une part, ces mouvements évangéliques véhiculent une morale ultra-conservatrice qui vient encore en ajouter au blocage imposé par la place de l'Église catholique sur des questions qui sont des questions de société, parce que la question de l'avortement, c'est une question de santé publique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une question qui est prise en charge par les acteurs religieux et de manière encore plus conservatrice que par l'Église catholique, par les nouveaux mouvements évangéliques. Et puis la deuxième question, liée à ces mouvements évangéliques, et là, je la trouve intéressante, c'est que ces mouvements évangéliques n'ont pas exactement la même posture vis-à-vis du politique que l'Église catholique. Le propre de ces mouvements évangéliques, c'est leur volonté d'intervenir en politique en tant que mouvement religieux, avec une remise en cause fondamentale de la laïcité. Puisque je rappelle quand même que le Chili est l'un des rares pays d'Amérique latine qui est un pays de séparation de l'Église et de l'État, depuis la Constitution de 1925. Et ça, depuis le début des années 2000, les candidats aux élections présidentielles ne s'y sont pas trompés. Ça commence à être très très difficile d'être élu si on n'est pas allé rendre son hommage dans les grandes églises presbytériennes, adventistes, etc. Parce qu'on sait très bien que le pasteur de ces églises va avoir une capacité de prescription de vote beaucoup plus importante que n'importe quel prêtre catholique. C'est aussi une des données évolutives des 40 dernières années, mais qu'il faut prendre en compte, à mon avis, pour comprendre les défis du Chili très, très contemporain.
Demain, nous reviendrons sur cette journée d'études organisée par le domaine d'histoire contemporaine de l'Université de Fribourg, à laquelle Histoire Vivante a souhaité donner écho, ceci en perspective de la diffusion dimanche prochain du documentaire « La barque n'est pas pleine ». Et demain, au cours de cette journée d'études, nous aurons l'occasion de revenir sur l'intervention du professeur Antoine Fleury. La prise de son de ce colloque a été assurée par Valérie Dantan. La mise en onde de cette thématique consacrée au coup d'État au Chili 40 ans plus tard est confiée cette semaine aux bons soins de Jean-Philippe Svalen.
Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Pierre Azan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jean-Philippe Svalen. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire-vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Dans le cadre du cycle de conférences Histoire vivante, la Maison de l'Histoire reçoit Patrick Boucheron, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur le thème « Conjurer la peur, images et politique à Sienne au Moyen-Âge », jeudi 15 mai 2014 à 18h30 à l'Uni Dufour à Genève. L'entrée est libre. Vous écoutez La Première, il est 21h.